Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une semaine avant la fête de Pessah. Cette année, ça tombe le 12. Et le 12, le 13, donc le 12 avril en soir, on commence la fête de Pessah. Cette fois-ci, ça tombe samedi. Ça complique quelque chose. On va un petit peu voir aujourd'hui, la prochaine fois, mais en tout cas, la fête dure 8 jours, mais les 2 derniers soirs, c'est la fête, ce qu'on appelle Seder, l'ordre de Pessah. Il y a tout un programme à faire, tout un programme au niveau éducatif, mais aussi au niveau, tout est éducatif, comme on va voir tout de suite, mais aussi au niveau de la nourriture, il y a ce qu'on mange. Mais, donc, alors, on est très proche et on a l'habitude déjà dans la communauté juive de préparer la maison depuis un moment. On fait normalement plus qu'on est obligé, mais en tout cas, on chasse le chametz. Le chametz, c'est tout le vin, tout ce qui est dépalé, qui est levé. Et tout ça, on chasse de la maison d'une manière ou d'une autre manière. Souvent, on nettoie la maison. Je pense que de là arrive aussi les notions qui ressemblent le ménage de printemps, mais ce n'est pas le ménage de printemps, bien sûr. C'est un autre ménage qui existait chez nous depuis plus que 3000 ans. Donc, alors, c'est vrai qu'à la limite, aujourd'hui, on fait beaucoup plus que en fait, dans certains domaines. On fait comme on sait faire dans la communauté juive, mieux que de ce qu'on nous demande. En tout cas, c'est une période de Pessah dans toute la communauté juive, dans toutes les maisons juives. On se prépare, mais c'est aussi le moment de se poser des questions, de comprendre qu'est-ce que c'est la fête de Pessah. On va essayer de voir. On va parler un petit peu aussi de la paracha, parce que quand même, la pauvre paracha, on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que on parle quand même, mais Pessah, elle prend toute la place, la fête de Pessah prend toute la place, donc on n'a pas le temps de parler, surtout qu'on parle d'un sujet assez compliqué, le sujet des sacrifices. Des sacrifices, aujourd'hui, on a du mal à comprendre, ça mérite une idée. On va voir toute une idée par rapport à nous, par rapport à l'humain, qu'est-ce que c'est le sacrifice, mais bien sûr qu'il faut laisser ce chapitre pour une autre fois, et comprendre un petit peu la notion de sacrifice. Encore une fois, à l'époque, c'était très répandu chez la communauté juive dehors. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre, tout simplement pour la situation où on se trouve aujourd'hui. Le monde a changé, et pourtant, c'est la Torah nous demande, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de nécessaire, mais pas aujourd'hui. OK, tout ça, on va voir si Dieu veut, mais aujourd'hui, donc, on va se baser surtout sur la fête de Pessah, comme on a dit. Que la fête de Pessah, ça prend beaucoup plus que les autres fêtes, ça prend beaucoup plus de temps, de préparation. Les enfants, ils se préparent pour poser des questions. On va voir tout de suite. Mais avant tout, il faut dire que la fête de Pessah, c'est une fête d'éducation. Le moquette dans la Torah, alors si on résume un petit peu ce qu'on fait dans la fête de Pessah, encore une fois, cette année, ça commence le 12 en soir, et ça va durer jusqu'à 20 en soir, parce que dans la communauté juive, en fait, selon la Torah, la journée commence à la couchée du soleil, et pour certaines choses, on sortit des étoiles. Donc, alors, c'est pour ça qu'on considère que c'est 12 en soir, mais en vérité, l'interdiction de manger chametz, ça commence déjà depuis midi, ça veut dire mi-journée des 12 déjà. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a que des complications cette année parce que ça tombe Shabbat, donc il y a des choses différentes. Mais donc on va reprendre cette notion de Pessah, nos obligations de Pessah. Qu'est-ce que c'est la fête de Pessah? Cette fête qui est considérée comme le premier parmi dans les séries de fêtes, on considère que ça, c'est le début. Alors donc, si on résume un petit peu ce qu'on fait Pessah, après on va essayer de comprendre ce que c'est Pessah, pourquoi Et donc, la Torah nous demande donc de nettoyer, de sortir toute chametz, donc toute leva de notre maison. Et pendant 7 jours, on mange que ce qui s'appelle la matzah, certains le traduisent par pa'azim. Et il y a une manière de le faire, c'est pa'azim dans le commerce, qu'ils ne sont pas avec kashrut, c'est forcément pas kasher, parce qu'il y a des règles comment le faire, mais en tout cas, ça s'appelle pa'azim. Donc pendant 7 jours, on ne mange pas de chametz. 7 jours, mais c'est vrai qu'en dehors d'Israël, il y a un jour supplémentaire. En tout cas, il y a 7 jours, il y a en tout cas, ne pas manger le chametz. Et ensuite, manger de la matzah. Manger de la matzah, c'est une obligation pour le premier soir, en dehors d'Israël, les deux premiers soirs. Le reste des jours, on n'est pas obligé de manger de la matzah. Mais c'est quand même bien, mais on n'a pas cette obligation. Mais les premiers soirs, on a l'obligation de manger de la matzah. Encore une fois, le premier soir, en dehors d'Israël, c'est les deux premiers soirs. Maintenant, il y a encore une autre mitzvah, et ça c'est très important de raconter. Donc le premier soir, encore une fois, en dehors d'Israël, c'est les deux premiers soirs, on raconte nos histoires. Quelque part, on peut dire que le soir de Pessah, on se met en question. On se demande pourquoi, qu'est-ce que c'est le judaïsme, qu'est-ce que c'est d'être juif, qu'est-ce que la Torah veut de nous, c'est sûr qu'on fait une fête, et c'est toujours sympathique de fêter quoi que ce soit, mais cette fête, elle a beaucoup de profondeur. Et quelque part, cette fête doit nous mettre dans, comme on dit parfois, dans les rails. Elle va nous mettre, comme certains le disent, dresser les cravates ou dresser les... Je ne sais pas, il y a des expressions comme ça. Ça veut dire qu'elle doit nous mettre parce que l'homme, il fait des... Parfois, il tourne à droite, parfois il tourne à gauche, parfois, il comprend pas mal de choses. Et de temps en temps, il faut faire un petit ménage et reprendre le bon schéma et comprendre. Alors c'est vrai qu'on se demande, on pose des questions. Il faut poser beaucoup de questions. Et le judaïsme aime des questions. On va voir tout de suite. Et tout le monde pose des questions. Depuis le plus sage, qu'il doit poser des questions, et jusqu'à le plus loin de toutes ces idées, qui aussi, lui, il doit poser des questions. En tout cas, Pessah, c'est une période où on se pose des questions. On se met en question, on se met quelque part, on se pose des questions, oui, et on se met dans une situation où il faut poser les questions, chacun selon son niveau. Là, il va essayer de s'approfondir dans ce qu'il connaît déjà, mais aller plus loin. Et là, il va se poser la question finalement, qu'est-ce que c'est d'être juif? Pourquoi on souffre tant? Pourquoi il y a l'antisémitisme? Puis, il y a la même chose que se passe ailleurs, et personne ne dit rien. Et quand se passe quelque chose chez nous, alors on nous regarde avec une loupe, tout va mal. Au fait, il ne faut pas donner des exemples d'antisémitisme, des choses qui ne sont pas logiques, ce qui se passe autour de nous. Donc on se demande qu'est-ce que le monde veut de nous. Et donc, on se demande qu'est-ce que finalement c'est le judaïsme, mais comme des différentes questions autour de ça. Donc, alors, c'est une bonne chose, d'ailleurs, que l'homme, en général, de temps en temps, il se met en question, mais c'est une très bonne chose que dans cette fête, en plus de ce qu'on mange et ce qu'on fait, qu'on se pose des questions. Parce que les questions, nous, finalement, les questions, derrière la question, à la suite des questions, il y a des réponses. Et finalement, l'homme, il a besoin de poser des questions, mais il a besoin aussi de donner des réponses. Et on est censé attirer les réponses dans ce qu'on lit dans l'Agada. Alors, parfois, c'est facile, parfois, c'est difficile, parfois, c'est profond, parce qu'on a des questions que pour trouver la réponse, il faut bien chercher. Parfois, la réponse, elle est superficielle, mais en tout cas, ça, c'est clair que Pessah, elle aussi réservée pour se rappeler et pour se mettre aux questions. Alors, encore quelque chose d'intéressant, c'est que il y a dans la Torah, on sait qu'il y a trois sortes de lois. On sait qu'il y a 613 lois, mais si on veut bien, il y a trois sortes de lois. Il y a des lois que la Torah nous dit « fais ceci, fais cela », mais la Torah ne nous donne pas de raisons. On n'est pas obligé de savoir pourquoi il faut faire, parce que c'est Dieu qui a demandé, parce que c'est la Torah qui nous demande. Comme l'exemple de la loi de Kashrut, de ce qu'on mange, de ce qu'on ne mange pas. Alors, une grande partie de ça, la Torah ne nous donne pas de raison. En fait, normalement, la Torah ne nous donne pas de raison. Elle nous dit, ça vous allez manger, ça vous n'allez pas manger. Et c'est toujours bien d'essayer d'imaginer des réponses, des raisons. Mais la Torah, elle ne nous donne pas, et ça c'est parmi les lois, qu'on ne connaît pas leurs raisons. En tout cas, même si on a des raisons, mais la base c'est sans raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça s'appelle, en langue hébraïque, ça s'appelle chukim. Chok, c'est la loi. Comme on dit qu'il y a un enfant qui demande à sa mère ou à son père pourquoi il faut faire ça et ça, c'est la loi. Donc ça veut dire, c'est la loi, on ne comprend pas forcément, mais il faut suivre la loi. Donc c'est sûr qu'il y a une profondeur, mais pour une certaine raison, on n'est pas toujours capable, ou bien on n'est pas toujours obligé de savoir les raisons. Le Maïmonide nous dit que c'est bien quand même de chercher des raisons, mais la base de ces mitzvot, de ces lois, c'est des lois, c'est comme ça. Ensuite, il y a une autre catégorie de mitzvot, des lois, que la Torah, on n'a pas... C'est très logique. Quoique, on peut toujours discuter, mais chez une grande partie de l'humanité, ces lois sont logiques. De ne pas tuer, est-ce que c'est logique ou non, ça dépend à qui on demande, malheureusement. Mais dans l'esprit de tout le monde, ne pas tuer, c'est logique. Ne pas voler, c'est logique. Et, ou bien beaucoup d'autres choses sont logiques. Encore une fois, il y a des gens qui vont dire, dans ce cas, on a le droit de voler, dans ce cas, on a le droit de tuer. Mais, c'est, bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais, en tout cas, d'une façon générale, ces lois sont plutôt logiques. Donc, il y a toute une catégorie de choses qui rentrent dans ces catégories, dans ces lignes de mitzvot, de lois logique. Ensuite, il y a une troisième sorte, que c'est entre les deux. D'une part, on ne peut pas dire que c'est très logique, donc certainement que c'est logique. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on comprend. Et pourtant, une fois qu'on le sait, une fois qu'on le fait, pardon, ça nous aide à comprendre pas mal de choses. L'exemple que j'ai entendu une fois, je l'utilise beaucoup parce que j'aime cet exemple. Et quelqu'un, par exemple, qui était en voyage, on va prendre, par exemple, Alaska. Aujourd'hui, quand on va quelque part, on prend des vidéos, on prend des photos, on voit tout de suite. À l'époque, les photos, c'était plus cher. On n'avait pas tout ce système qu'on a aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui était dans un voyage éloigné, il veut bien se rappeler de ces moments magiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre d'Alaska. Il les pose sur son buffet ou ailleurs, et chaque fois qu'il rentre ou il sort, ça lui rappelle le bon moment. Les gens rentrent chez lui et ils demandent « C'est quoi cette pierre ?»« Ah, cette pierre vient de l'Alaska, voilà, j'ai passé un moment là-bas, c'était magnifique. » Donc quelque part, on a une pierre qui, aux yeux des autres, les pierres ne représentent rien, mais pour cette personne, la pierre, elle représente toute une histoire, toute une idée. Quelque part, on peut dire qu'il y a des lois parmi nos lois qui s'appellent Edot. Edot, ça veut dire témoignage. Ça veut dire que quand je vois ça, ça me rappelle toute une histoire, toute une idée. Et donc, dans ces catégories, dans la troisième catégorie, il y a toute une notion qui rentre. Et c'est par exemple la mitzvah de Pessah. La Torah veut qu'on se rappelle de Pessah, de la fête de Pessah. La fête de Passover, la fête de Pâques, il y a beaucoup de détails. Donc la Torah nous demande quelques actes, ou surtout un acte, c'est la matzah. Il y a d'autres, mais on va prendre la matzah qui est le plus répandu. Et quand on fait la matzah autour de ça, ça nous rappelle pas mal de choses. Alors on se demande quel rapport entre la matzah et telle idée. Non, c'est une idée qui nous rappelle, comme la pierre d'Alaska qui nous rappelle. Mais en vérité, non, c'est plus que ça. Comme il est marqué que la matzah nous rappelle, la matzah elle-même, la nature de la matzah elle-même, elle nous rappelle telle et telle chose. Mais après tout, si l'humain devrait choisir un autre symbole pour célébrer la fête de Pessah, il aurait pu choisir un autre symbole. Seulement que la Torah, Dieu nous demande, Voilà, pour célébrer Pessah, vous prenez la matzah, et la matzah va vous rappeler. Alors, quelque part, dire que c'est très logique à nos yeux, on comprend bien, non, mais d'une autre part, on ne peut pas dire que ce n'est pas logique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous rappelle une histoire. Bien, alors, donc, comme on vient de dire, que dans la Torah, il y a trois catégories de lois. Il y a des lois que la Torah ne nous donne pas la loi, nous donne pas la raison, c'est la loi. Il y a des lois qui sont très logiques. Et il y a quelque part quelque chose que dire qu'on comprend exactement la valeur, non, mais d'une autre part, ça nous rappelle quelque chose, ça s'appelle édote, témoignage. Maintenant, donc, alors, la fête de Pessah, c'est le moment, alors, d'une part, on raconte, mais d'une autre part, on fait des actes, que ces actes, ils sont censés à nous rappeler notre histoire. Alors, d'une part, comme dans le judaïsme, il y a l'acte qui est important, même si on ne comprend pas, fait l'acte. Mais d'une autre part, ça doit être accompagné par des explications. Mais toute l'année, on fait moins attention. Le fait de Pessah, c'est le moment où on raconte notre histoire. Donc, alors, il y a une soirée. Comme on a dit tout à l'heure que cette soirée se passe cette année, les 12 soirs et les 13 soirs, on fait certains actes, y compris on mange la matzah. Mais à côté de ça, on rentre dans les détails, on raconte notre histoire. Alors, la Torah nous dit comme ça, la Torah nous dit dans quatre endroits qu'il faut raconter à nos enfants l'histoire de Pessah. Donc, on est sorti de l'Égypte, donc c'était la génération qui est sortie de l'Égypte. Et la Torah nous dit que si tes enfants, si vos enfants ils vont vous demander, ou bien même les enfants qui ne nous demandent pas, il faut passer ce message de Pessah d'une part et de judaïsme d'une autre part, de façon plus générale, il faut passer à la génération à venir. La Torah, chaque fois, la Torah, elle formule autrement cette idée qu'il faut traverser et il faut passer le message aux générations à venir. La première fois que la Torah nous dit, que si vos enfants ils vont vous demander qu'est-ce que c'est ce travail, alors vous allez leur dire, et la Torah nous donne la réponse. En tout cas, l'idée, c'est ce sacrifice pascal nous rappelle, c'est pour parce que Hachem nous a sauvés de l'Égypte. Ensuite, il y a, après la Torah nous dit, donne un petit peu plus loin, vous allez dire à tes enfants, pour ceux qui ont fait le soir de Pessah, pour ça, Hachem, il nous a sortis de l'Égypte. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de question. Le mot dans la Torah, vous allez dire à vos enfants. Tu vas dire à ton enfant. Ensuite, il est marqué un petit peu plus loin. Si ton enfant, il va te demander qu'est-ce que c'est, donc sur ce qu'on fait Pessah, alors tu vas lui dire telle et telle réponse. Et ensuite, beaucoup plus loin, à la fin de la Torah, il est marqué que si ton fils, il va te demander demain qu'est-ce que c'est le témoignage, la loi, je ne sais pas comment traduire, Chukim ou Mishpatim, alors tu vas lui dire, et là il y a beaucoup de détails, on était esclaves en Égypte, Hachem nous a fait sortir de là-bas. Donc la Torah, dans quatre endroits, la Torah nous raconte, la Torah nous parle du fait que si... qu'il faut répondre à nos enfants. Et le Talmud essaie de comprendre les différences entre une fois et l'autre fois. Est-ce qu'il y a des différences entre les enfants? Alors, le Talmud nous dit que si. Les enfants ne posent pas les mêmes questions. Le premier enfant, c'est l'enfant qu'on appelle dans la Gada, l'enfant Racha. Racha ici, plutôt, c'est un provocateur. Quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec rien. Il est toujours contre le système. Et donc, dans le judaïsme aussi, il y a quelqu'un qui est contre le système. Il va te demander, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est travail? Ça, c'est dans l'ordre de la Torah. Ensuite, on a un enfant qui... il y a un enfant qui... il y a un enfant qui ne pose pas la question. Et donc, à lui, il ne pose pas de question. Il y a parmi nous des gens qui ne posent pas de question. Tout va bien. On va lui dire de faire ça, il fait ça. Mais en tout cas, à lui, il faut le chercher. Et ça s'appelle dans la Agada, chez nous, et de Alishol. quelqu'un qui ne pose pas de questions. Soit il ne pose pas de questions parce qu'il est tout petit. Donc, tout ce qu'on fait, c'est normal. Soit il ne pose pas de questions parce qu'il est très très loin de toutes ses idées. Donc, quelqu'un qui est éloigné des idées juives. Ou bien pour d'autres raisons. Donc, alors, il faut lui raconter avant même qu'il pose des questions. Et dans la Haggadah, donc dans cet livre qu'on lit, l'Histoire de Pesach, ça s'appelle « Sheino Yodea Lishol ». Celui qui ne sait pas poser des questions, ou bien celui qui ne pose pas des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Avec lui, il faut provoquer des questions. Il faut faire des choses pour qu'il pose des questions. Et d'ailleurs, les quatre questions de Manishtana, les Manishtana, c'est les questions qu'on connaît, beaucoup de tout le monde connaît. Et normalement, il y a un air que tout le monde utilise. Il y a d'autres airs, mais l'air le plus classique, c'est Manishtana, Alayla, Zemikol, Alelot. C'est une air qui est internationale. En tout cas, c'est le fameux Manishtana. Le fameux Manishtana, pourquoi cette nuit est différente que les autres nuits? Alors, cette question en commun que tout le monde pose, c'était créé pour les gens qui ne posent pas de questions, comme ça, il est marqué dans le Mishnah. Le Talmud, donc, les gens qui ne posent pas de questions, donc le père, il doit l'apprendre à poser des questions le soir de Pessah. Donc, normalement, on a quatre questions. Il y a parfois où on fait d'autres choses qu'il pose des questions, mais le soir de Pessah, il faut poser des questions. Il faut toujours poser des questions. Le soir de Pessah, c'est le moment, plus que jamais. Donc, alors ici, on a dit qu'on a parlé déjà d'un enfant qui pose des questions, mais il pose des questions provocateurs. Il y a un enfant qui ne pose pas de questions, donc on fait en sorte qu'il pose des questions. Il y a un enfant, donc à la suite, il est marqué que si ton enfant, il va dire que c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une question très générale, sans détail. Et ensuite, tu lui dis aussi des réponses générales. Là, on appelle dans la Haggadah Ben Tam, le fils simple. Ça veut dire qu'il pose des questions, mais pas très intelligent. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il est fatigué, parce qu'il travaille trop pour telle et telle raison, mais c'est une sorte. Des gens qui posent des questions, mais pas très approfondies. Et ensuite, on trouve à la fin de ce seder, à la fin de la Torah, on trouve les sages qui posent des questions très détaillées. Pourquoi ça et ça et ça et ça? Ils rentrent dans les détails des différences entre ce que s'appelle et d'autres qui ont mishpatim. Telle sorte de loi, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Et à lui aussi, on lui répond des questions approfondies. Maintenant, dans la Haggadah, donc dans ce livre qu'on va lire le soir, il y a un autre ordre. On commence par le fils intelligent. Intelligent ici, c'est pas les autres aussi, ils peuvent être intelligents. Mais intelligent, ça veut dire dans notre cas, il pose des questions. Il pose beaucoup de questions, des questions difficiles. Et donc, à lui, on répond tous les détails jusqu'à la fin. L'enfant qui s'appelle ici Racha, le provocateur, il pose des questions qui provoquent. À lui, on est un petit peu dur avec lui, comme il manquait dans la Haggadah. Parce que parfois, c'est le schéma pour lui dresser les cravates, comme on dit. Pour le Tam, qu'il pose des questions très générales. Alors, c'est vrai que on lui donne des réponses à son niveau. Mais chez nous, le chose, c'est lui qui ne pose pas de questions. Alors, à ce moment-là, comme on a dit tout à l'heure, il faut le pousser à poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'on crée des choses bizarres, en fait, inhabituelles, dans le soir de Pessah. Comme ça, il pose des questions. Pourquoi? Et c'est très bien. Alors, maintenant, il y a encore quelque chose. Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est ce qu'on fait le soir de Pessah, on pose des questions, on a des réponses. Selon le Rabbi de Lubavitch, chaque année, il faut monter des niveaux. Ça veut dire que les questions de l'année dernière, on a répondu sur ces questions. Et puisque cette année, à nouveau, on pose des questions, et souvent les mêmes questions, c'est parce qu'il faut trouver une autre profondeur dans les mêmes questions. Donc, alors, ça veut dire que l'année dernière, j'ai posé des questions, ils ont été excellents. Mais j'ai eu des réponses. Comment ça se fait que je pose des questions à nouveau? Les mêmes questions cette année. Alors, c'est vrai que les gens, ils les font souvent sans réfléchir, mais l'idée profonde de cette idée, c'est qu'il y a une nouvelle profondeur dans les mêmes questions qu'on n'a pas eu l'année dernière. Mais de toute façon, chacun selon son niveau, L'idée de Pessah, c'est de poser des questions et se mettre aux questions. Ça, c'est le judaïsme. Elle veut nous mettre aux questions. Surtout que l'idée générale du judaïsme, et surtout la sortie de l'Égypte, c'est quoi la sortie de l'Égypte? L'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte de l'époque. C'est une histoire dépassée à un moment donné. Il faut savoir tourner la page. Il y a des gens, on peut dire comme ça, qui fêtent beaucoup. On a la fête des différentes fêtes qui sont liées avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça nous touche. C'est vrai que c'est passé déjà 80 ans, mais quand même, c'était un drame. En fait, les gens qui fêtent, c'est une fête nationale quand même, qui fête la fin de la guerre de 14-18, c'est beaucoup plus loin de nous. Donc normalement, on est censé fêter un petit peu moins, à fêter un petit peu moins. Mais si on va parler d'autres guerres de France ou bien ailleurs, plus qu'on s'éloigne, d'une façon sentimentale, on a moins de... Ça y est, on est dans une autre période. C'est pas la même génération, c'est pas la même... On connaît plus des personnes qui ont été là-dedans, donc il faut savoir tourner la page. En fait, je dis pas qu'il faut... on se mêle pas dans ce qu'il faut faire. C'est juste l'idée que, naturellement, plus qu'on s'éloigne d'une période, on sait tourner la page, on est plus proche de ce qui s'est passé maintenant. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que dans la communauté juive, on fête la fête de Pessah, et il y a cette habitude de fêter comme si on était là-dedans. Le maquet de cette phrase, « Chayav Adam Lirot et Atzmo, Kilu Hu Yatzam Mitzrayim », ça veut dire qu'il faut se considérer que ça passe maintenant. Comment c'est possible? Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. C'est pas les mêmes personnes, on a carrément changé la personnalité des gens, la mentalité des gens a carrément changé, donc comment on peut parler d'un problème, une solution qui est aussi loin de nous? Et c'est pour ça qu'on dit que non, ce qui est marqué dans la Torah, c'est des choses qui se répètent. Et c'est un modèle pour notre vie. Alors, il est marqué que l'Égypte représente une notion, comme son nom en hébreu, d'étroitesse. Mitzrayim, dans le mot Mitzrayim, il y a la notion de Mitzar. Mitzar, c'est quelque chose qui est étroit. Et sortir de l'Égypte, ça veut dire sortir de cette étroitesse. Donc, à partir de là, c'est devenu une idée très générale. On est dans un monde, c'est Dieu qui l'a créé, c'est vrai, mais il a créé un monde compliqué. On a beaucoup de challenges dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'il faut sortir de de cette situation pour aller au-delà de ça. Et dans notre vie, il y a beaucoup d'épreuves. L'épreuve d'aujourd'hui, d'hier, c'est plus l'épreuve d'aujourd'hui. Une petite anecdote, je lis une fois ce que j'ai beaucoup aimé. On a chez nous un monsieur qui, autrefois, il était quelque part le rabbin des étudiants en États-Unis, quelque part, en Minnesota. Là-bas, il était très, très fort. Il était un rabbin qui savait parler aux jeunes, mais beaucoup plus. Même aujourd'hui qu'il habite plus là-bas, mais il a quelque chose, il a une facilité, il explique des choses d'une façon très ponctuelle. Il fait des livres, d'ailleurs. Parfois très provoquant. C'est très intéressant. En tout cas, je ne vais pas parler de lui maintenant. Donc, il raconte que lorsqu'il était à Minnesota, les premières années, c'était la période des hippies. Donc, il a fait la première un séminaire avec des jeunes comme ça, qui sont perdus, qui se cherchent. Alors, il a fait un séminaire, il y avait beaucoup de monde qui sont venus, et ils sont venus avec leurs questions. Provoquant. Et lui, il savait, il s'est débrouillé. Donc, il n'était pas prêt pour ce sort de questions, mais il s'est débrouillé bien. Donc, il a dit que l'année prochaine, il va se préparer mieux pour ce sort de questions. Parce qu'il y a des questions qu'on doit se préparer, il faut réfléchir, c'est des questions inhabituelles. Donc, lui, il voulait se préparer mieux l'année prochaine pour ces questions. Mais le problème, c'est que l'année prochaine, les questions étaient carrément différentes. Et encore l'année d'après, c'était d'autres. Ce qui intéressait les gens l'année d'avant intéressait plutôt les gens l'année d'après. Parce que le monde change. Et pas seulement maintenant, c'était toujours le cas. Le monde change. Et ce qui était évident hier, et l'objectif de l'époque, c'était plus l'objectif d'aujourd'hui. Les gens des hippies, c'était des gens qui cherchaient la vérité, cherchaient. Mais leur vérité était différente que la vérité des autres. Donc ils se sont provoqués. Mais ces mêmes gens, l'année d'après, en fait, certainement qu'il y avait certains qui restaient avec le Mimidé, mais ils racontent que l'année d'après déjà, ce qui était un problème l'année dernière, c'était plus un problème dans cette année-là. Ça veut dire quoi? Que le monde change, mais avec une vitesse extrêmement forte. Et c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, mais c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Il y a des difficultés, il y a des challenges, il faut toujours avancer. Il y a des problèmes, on avance. Il y a de nouveaux problèmes, peut-être, on avance. Il y a encore des problèmes, on avance. Et c'est pour ça que dans l'esprit juif, il y a cette notion de sortir de l'Égypte. Peut-être les problèmes que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas l'année dernière. Mais justement, puisque j'ai ces problèmes cette année, il faut savoir sortir, en tout cas, manipuler avec ces problèmes et aller plus loin. C'est ça la notion de la sortie de l'Égypte. En tout cas, on a fait un petit tour, mais ce qui est important, c'est que la Torah nous demande, qu'une fois par an, en fait, c'est pas seulement une fois par an, mais pour certaines choses, c'est une fois par an, on se pose des questions. Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi le monde autour de nous, il est comme ça? Quel est le but du monde? On pose beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que dans la Haggadah, les questions sont trop précises, mais il faut, d'une autre part, les voir beaucoup plus larges, comme il est marqué de différents endroits. Peut-être on aura l'occasion la prochaine fois de parler. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus large que c'est quelques mots. Pourquoi on mange la matzah? Pourquoi on trompe? Pourquoi on ne trompe pas? Et il y a ces questions pratiques, pourquoi on fait ça? Il y a ces questions par rapport à ce que ça symbolise. Et là, on peut aller beaucoup plus loin, encore beaucoup plus loin. Donc, Pessah, c'est le moment magnifique, magique, où on pose des questions, mais surtout qu'on a des réponses, qu'on avance dans la vie, que ça nous ouvre notre esprit pour aller plus loin. Et puisque la fête de Pessah représente une notion de liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? On ne sait pas trop. On dit que la liberté est très relative. Parfois, quelqu'un qui pense qu'il est en liberté, mais en vérité, il est loin d'être libre. Et pourtant, dans son esprit, il l'appelle liberté. On dit quelque chose, peut-être l'image n'est pas très bonne, mais quand même, ça nous donne une idée. On dit qu'un porc, lorsqu'il se trouve dans ses déchets, il est très content, mais il dit qu'il aimerait bien avoir encore plus de déchets. Alors, dans son esprit, c'est une notion de liberté. Pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible. C'est impossible de vivre comme ça. Donc, tout est relatif. Qu'on fasse, qu'on avance dans la vie. La Torah veut que nous, on avance dans la vie. Le peuple juif et le monde autour de nous avancent dans tous les domaines. Et d'une autre part, la fête de Pessah nous rappelle aussi que le monde avance, même quand on a l'impression qu'il recule, mais le monde avance et chacun doit avancer dans les bonnes choses, dans les bons actes. Surtout qu'on est à la veille de cette période, la vraie liberté, où le monde va changer. Malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui, le monde de Mashiach. Merci pour votre écoute et bonne préparation pour la fête de Pessah et à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.